On bouge!
Et oui, comme à tous les mardis, maintenant un peu plus aux deux semaines, on a Maud-Émilie Méthode en studio. Bonjour Maud-Émilie.
Bon matin tout
Salut.
Le monde.
Et là, aujourd'hui, on va parler, comme je te disais un peu juste avant d'entrer en onde, c'est le mois de la sensibilisation de la maladie pulmonaire obstructive chronique, communément appelée MPOC.
Oui.
Ça, j'entends MPOC, je le sais que ça existe. Chaque année, tu viens nous parler de ça environ dans ce mois-là.
Oui.
Et chaque année, quand tu arrives ta chronique, je me dis, c'est quoi ça encore?
Ben, c'est toujours un peu la question parce qu'on entend le nom de la maladie dans son sens large, qui est la maladie pulmonaire obstructive chronique, mais on entend aussi souvent l'acronyme MPOC. Puis c'est ça, souvent on se demande un peu qu'est-ce que c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas ça ou qui ne côtoie pas quelqu'un qui vit avec la MPOC. Ben, parfois, ça peut être un petit peu abstrait, puis on ne sait pas trop c'est quoi. Donc, commençons en expliquant un peu c'est quoi cette maladie pulmonaire-là. Puis ensuite, bien, évidemment, vous allez le voir venir. Bien, on va faire un lien avec l'activité physique. Puis de quelle façon?
C'est sûr.
C'est pas subtil, mon affaire, là. Vous commencez à comprendre le principe.
On sait où c'est que ça s'en va, là.
Ouais, exactement. Donc, on finira avec le lien, les avantages, dans le fond, de l'activité physique sur la maladie pulmonaire. Donc, le mois de novembre, bien, c'est le mois de la sensibilisation à la MPOC. Pour moi, c'est un mois qui est super intéressant parce que justement, la maladie pulmonaire, comme tu disais, Francis, si on n'y est pas confronté, on n'est pas nécessairement sensibilisé à ce type de maladie-là. Donc, je trouve que c'est important d'en faire de la sensibilisation parce que, particulièrement dans la vallée de la Gatineau, parce qu'on est une région qui est beaucoup touchée par ce type de maladie-là, de par notre grande proportion de fumeurs. D'anciens fumeurs, disons ça comme ça aussi. Donc, évidemment, ces statistiques-là font qu'on peut prévoir une plus grande population atteinte de cette maladie. En fait, la maladie pulmonaire obstructive chronique, avant, on avait deux maladies. Maintenant, on les a regroupées ensemble pour appeler ça la MPOC. Fait que les gens connaissent parfois plus l'emphysème.
Et
la bronchite chronique.
OK.
Mais maintenant, on a regroupé ça ensemble parce que les chercheurs et les médecins se sont rendus compte que c'est la même maladie. C'est la même problématique à la base. Le problème est au niveau de la sortie d'air. Donc, il y a une obstruction, pour ça qu'on dit obstructive, qui est chronique, qui est là de façon permanente et répétitive. Donc, c'est vraiment une problématique au niveau de la sortie d'air. Les gens, les tuyaux des poumons sont obstrués, où il y a une dégradation au niveau des alvéoles. Ça, c'est dans les poumons. C'est les plus petites unités des poumons qui permettent de faire les échanges entre le gaz carbonique et l'oxygène. Donc, ça vient, dans le fond, perturber la sortie d'air, et c'est pour ça qu'on appelle ça une maladie pulmonaire obstructive chronique. Dans le fond, la MPOC, la majeure cause de cette maladie-là, c'est malheureusement la cigarette.
OK.
On parle que 90% des gens qui sont atteints de la MPOC vont avoir fumé à un moment donné ou un autre dans leur vie. Alors, on est plus à risque à cause de la cigarette.
Oui.
Le 10% restant, ben là, c'est d'autres causes qui peuvent être de l'exposition professionnelle, par exemple, à des produits chimiques ou quoi que ce soit. Ça peut être génétique, par exemple. Il y a des gens qui ont une prédisposition génétique à la MPOC avec un déficit qu'on a fait, le déficit en alpha 1 antitrypsine. Donc, ça, c'est bon au Scrabble comme mot aussi. C'est ça. Malheureusement, il y a une prédisposition qui peut exister dans les familles. Mais c'est quand même pas autant fréquent que la cigarette. On s'entend,
c'est
là. Parmi le 10%, il y a des gens qui vont avoir cette prédisposition. Il y a aussi, par exemple, des infections pulmonaires répétées à l'enfance qui peuvent créer des espèces de cicatrices sur les poumons qui vont être là à plus long terme aussi. Fait qu'il y a d'autres, facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte.
Est-ce que ça rend la respiration sifflante? Est-ce qu'on l'entend?
Ça peut, chez certaines personnes. La respiration sifflante, c'est un des symptômes. Je dirais que le symptôme principal, c'est l'essoufflement.
OK.
Vraiment, là, se sentir essoufflé, c'est le symptôme principal de la maladie de poumon.
Là, quand on dit essoufflement, c'est justement avec un faible niveau d'activité. Par exemple, je viens de courir un marathon, j'étais essoufflé, ça. Là.
Exactement.
Dans le fond, monter trois marches, j'étais essoufflé.
C'est ça.
C'est plus sûr,
ça peut être quand même plus qu'un peu trois marches. Là. Dans des cas plus légers, les gens sont quand même capables de continuer leurs activités, mais ils vont être plus essoufflés. Inquiétez-vous pas, l'essoufflement, là, c'est un symptôme qui est quand même commun sur plusieurs problématiques de santé et sur le déconditionnement physique, on s'entend. Mais c'est ça, si on est fumeur ou on a déjà fumé, puis que là, on sent peut-être un petit peu plus essoufflé, des fois, ça peut être bien de faire vérifier le tout. Peut-être que c'est rien. Peut-être que c'est...
Vaut mieux prévenir.
Vaut mieux prévenir. Donc, l'essoufflement, c'est le symptôme majeur et le plus prévalent. Ensuite, on a des symptômes qui varient un petit peu, tout dépendamment si on a plus une typologie d'emphysème ou de bronchite chronique. Les gens qui ont de la bronchite chronique, vont avoir tendance à être plus congestionnés au niveau des bronches, avoir plus de sécrétion, par exemple. les gens qui font de l'emphysème, ben, ils vont avoir tendance à avoir un taux d'oxygène dans le sang qui est plus bas. Parce que justement, au niveau du transfert d'oxygène et du gaz carbonique, on a plus de difficultés à cause que les alvéoles sont détruites. Donc, ça varie un petit peu, mais la respiration sifflante rentre là-dedans. La fatigue, et c'est un symptôme très, très, très prévalent parce que pour respirer, les gens qui ont la MPOC vont travailler énormément plus qu'il y a quelqu'un qui a des poumons sains. Oui. Donc, la fatigue fait partie de la maladie. Okay. Donc, il peut se mêler à ça, par exemple, de l'asthme aussi. Ça peut arriver chez certaines personnes. Fait que ça peut être un joli mélange de plein de choses. Ceci étant dit, ben, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que la réadaptation par l'activité physique, c'est extrêmement efficace. C'est extrêmement efficace parce que malgré que l'exercice physique n'améliore pas la condition pulmonaire comme telle, la fonction pulmonaire n'est pas améliorée par l'activité physique, mais quand on bouge avec la MPOC, on vient améliorer notre condition cardiovasculaire. Et on le sait, le cœur et les poumons, c'est deux systèmes qui fonctionnent en synergie. Donc, si mon cœur est meilleur, ben, il peut prendre le relais pour mes poumons qui ont un petit peu plus de difficultés. Alors, si je m'entraîne, évidemment, on ne commence pas n'importe quand, là, n'importe comment. Il faut y aller doucement puis bâtir son endurance parce que souvent, les gens, malheureusement, sont déconditionnés. Ben, on voit tranquillement que l'essoufflement à l'effort va diminuer à force de faire de l'activité physique. Donc, l'activité physique cardiovasculaire hyper importante, comme par exemple la marche, le vélo stationnaire, ça peut être des super outils pour commencer. Un pédalier d'exercice aussi peut être super efficace. Et au niveau musculaire, bien, c'était également important, puisque avec la maladie pulmonaire, parfois, il va y avoir une perte de masse musculaire. Les gens vont perdre du muscle. Oui. Entre autres choses, si la respiration est tellement énergivore, ben, des fois, on peut, si on ne s'alimente pas suffisamment et tout ça, ben, on peut aller chercher de l'énergie dans nos muscles, hein, nos protéines musculaires. On peut les dégrader pour créer de l'énergie. Donc, parfois, on va perdre ça. Et aussi, il va y avoir un changement de typologie au niveau des fibres parce qu'il y a moins d'oxygène. Il y a une possibilité qu'il y ait moins d'oxygène en circulation. Donc, mes fibres qui fonctionnent avec l'oxygène, ben, peuvent devenir anaérobies. Donc, plus efficace sans oxygène.
Est-ce que ça peut être bon pour ces gens-là qui souffrent de cette maladie-là de faire de l'entraînement en milieu aquatique? Est-ce que l'eau, la vapeur, tout ça, est-ce que ça peut les aider?
Bien, ça dépend des gens, j'aurais tendance à dire. Certaines personnes, peut-être, qui vont être irritées par le milieu aquatique. Si on pense, par exemple,
au chlore
qui est puissant, là. Des fois, ça peut être un peu irritant, ces senteurs-là très fortes, les produits chimiques. Il faut faire attention avec ça. Ça peut être des facteurs exacerbants. Mais si on est dans une piscine plus, par exemple, l'été à la maison, puis que ça peut être plus doux, puis on peut bouger, ou quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on utilise moins de produits chimiques, à ce moment-là, ça peut être une option intéressante à vérifier. Okay. C'est sûr que tout ce qui est environnement chaud et avec de la buée là, ou de la condensation, c'est plus difficile.
C'est plus difficile pour
quelqu'un qui a plus des problèmes qui sont plus modérés à sévères, là, dans le fond. Quelqu'un qui est moins avancé dans la maladie, peut-être aura pas tant de difficultés avec ça, mais parfois, juste prendre une douche, ça peut être difficile à cause de la vapeur qui se crée si on prend une douche qui est très chaude, par exemple. Fait que ça dépend de chaque personne, mais il y a des petits points à prendre en considération absolument de ce côté-là. Encore là, chaque personne a son niveau de tolérance, puis il faut voir qu'est-ce qui fait du bien puis qu'est-ce qui fait pas de bien. Mais dans tous les cas, l'activité physique, quand on la fait de façon adaptée et progressive, c'est hyper efficace. La réadaptation pulmonaire, il n'y a même plus d'études qui se fait là-dessus parce qu'on sait à quel point c'est efficace. Je me souviens de l'avoir déjà dit par le passé, on n'a plus de financement pour ce type d'études-là, on le sait. Hors de tout doute, les niveaux d'évidence sont tellement élevés, on sait que ça fonctionne.
Donc, si quelqu'un vient d'obtenir un diagnostic de MPOC, tout de suite se mettre à l'exercice, à l'exercice ou à l'activité physique, ce serait une bonne idée.
Bien, ça serait un premier pas. Évidemment, à travers tout ça, il y a d'autres types de traitements, les pompes qu'il faut prendre en duo, dans le fond. On ne peut pas se dire qu'on ne prendra pas de médication parfois, mais ça peut être un très bon point que de commencer pour s'assurer de garder une bonne condition physique, une bonne condition cardiovasculaire et limiter l'impact.
Est-ce qu'il y a une société, est-ce qu'il y a un site web qu'on peut aller voir si on doute peut-être d'aller voir c'est quoi exactement cette maladie-là?
Oui, tout à fait. Il y a une super belle ressource au Québec qui s'appelle « Mieux vivre avec la MPOC, avec la maladie pulmonaire obstructive chronique ». Si vous écrivez « Mieux vivre avec la MPOC » sur Google, vous allez automatiquement tomber sur ce site web-là. Il y a plein de belles plein de belles options qui s'offrent pour justement ça. Mais je vous encourage, si vous avez déjà le diagnostic de MPOC, de consulter, dans le fond, pour faire sûr que votre niveau d'activité physique soit adapté. Alors, c'est vraiment bien d'être conseillé puis d'être supporté là-dedans parce qu'au début, très anxiogène. Tu sais, je fais de l'exercice, je suis essoufflée. qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la normalité, est-ce que ça fait, est-ce que c'est correct ce que je fais ou c'est pas correct. Tu sais, dans le fond, fait que d'être accompagné là-dedans puis de normaliser l'essoufflement à l'effort, ben c'est un premier pas, mais il ne faut pas le faire toute seule. Ça peut être très, très anxiogène. Fait que je vous encourage à consulter vos professionnels de la santé, idéalement un kinésiologue qui est spécialisé en réadaptation pulmonaire. Mm-hmm. Et il existe des ressources comme ça. Maintenant, il y a des programmes de télé-réadaptation pulmonaire qui peuvent être faits à distance, par exemple. Fait que la COVID nous a apporté ces possibilités-là.
Il y a eu beaucoup d'informations. Si on veut avoir toutes ces informations-là, bien sûr, caga.fm sous l'onglet balado-diffusion. Merci beaucoup, Maud-Émilie.
Ben merci, bonne semaine.
Avec Sheila Fournier et Francis Letourneau, c'est Double Expresso.